Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Bonjour, bonjour Eric, quel est ton nom ?
Bonjour, je m'appelle Eric.
Eric comment ?
Galopa.
Galopa. Quel signe déjà ?
Cancer.
Cancer. Et quelle année ?
71.
Et je dirais commerçant ?
Commerçant, oui.
Ethnique ?
Alors oui, ethnique, c'est difficile.
L'Asie.
L'Asie, tout à fait.
Bon allez, les pirates.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh is, oh is, oh eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate.
Alors Eric est un garçon discret, talentueux, un poète. Il a une graine de Baudelaire. Tiens Eric, comme ça. Un petit coup de Baudelaire.
Ah ben, je sens la question piège.
Réfléchis, tu y es, tu sais chanter si bien dans ton magasin Baudelaire.
Ah, c'est vrai que c'est... J'ai souvent des clients qui me demandent, qui parlent de l'esprit, de la nature. Et en fait, il y a Fichte aussi qui a dit « J'appelle nature la partie visible de l'esprit. J'appelle esprit la partie invisible de la nature. »
Bon, c'est magnifique comme introduction. Alors, bien sûr, nous avons préparé un peu cette émission, parce qu'on ne l'a pas fait comme ça. Parce qu'il y a un sujet... Bon, moi, je voulais te parler de la Mongolie, je voulais te parler de cette Mongolie chinoise, parce que tu m'emmènes et tu me fais voyager. Mais tu as envie de me parler de l'aventure strasbourgeoise des commerçants qui disparaissent. Et je trouve que c'est un sujet qui m'a un peu touché. Et la transformation actuellement de ces vieux commerces qui, d'un coup, pour différentes raisons, s'évaporent. Alors, peux-tu m'exprimer un petit peu ton ressenti ? Parce que ça avait l'air de te toucher ce matin, ce petit commerce spécifié. Tu as des adresses que tu peux le dire ?
Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'on a tous en nous des souvenirs d'étudiants où on voyait des commerces un peu particuliers, qu'ils ont envie de voyager, d'aller, de rêver, d'aller ailleurs. On a tous en nous des odeurs d'encens, de patchouli. Des visions de vieux meubles, des masques étranges, des noms évocateurs. Et malheureusement, on évolue dans le temps, et puis d'un seul coup, on se rend compte que ces commerces ne sont plus là. Ils sont remplacés, et on se rend compte que ces voyageurs qui étaient partis soit en Chine, soit en Mongolie, soit en Inde, vont bientôt partir. Là, par exemple, j'en sais un coup de cœur, un magasin va bientôt fermer, qui s'appelle Les Choses de l'Inde, tenu par Laurence. Et je sais qu'à un moment donné, comme une pierre qui tombe dans l'eau, on ne la reverra plus. Donc ça me touche.
Ça te touche. Est-ce que tu sens que ta ville est en train de changer ?
Oui, tout le monde le sent. Après le Covid, ça a été étonnant. On a une ville très riche. On a une ville de gens qui aiment la différence, qui aiment des pays exotiques, qui connaissent aussi la valeur des choses. Et quand un commerce comme ça disparaît, il y en a beaucoup qui ont disparu. Hein. Il y avait la boîte à trésors.
C'était quoi la boîte à trésors ?
Alors, c'est un commerce un peu particulier, qui est rue d'Austerlitz, un commerce de passage, et qui est un des premiers commerces ethniques que j'ai rencontré.
Qui vendait des produits de tout partout ?
Oui, absolument, absolument. Donc des produits marocains, des très beaux produits. Je regrette aussi que le Maroc soit si peu représenté. Ouais.
Alors, j'ai senti dans ton propos que tu sens que ta ville est en train de... Pour
pourtant, si on voit la réussite de la Grande Rue, c'est une très belle réussite, la Grande Rue.
Oui, tout à fait. C'est vrai, mais par exemple, qui se souvient que jadis et naguère, il y a environ une douzaine d'années, il y avait une jeune femme qui venait d'Inde, qui vendait de belles petites choses à côté de mon magasin. Ça a disparu. Casmétis, qui avait aussi une boutique à côté de moi, a disparu. Il y a ces petits éléments comme ça, des petits détails insignifiants, mais quand ces gens disparaissent, c'est un sourire qui disparaît, c'est des objets, c'est une manière, un positionnement.
Alors tu as un phare quand même à côté de toi, une droguerie qui est emblématique.
Ah oui, la droguerie du Cygne, 150 ans
de présence.
Il y a souvent des vieilles dames qui se trompent, qui viennent chez moi en pensant qu'elles sont à la droguerie du Cygne.
Vous avez de la soude caustique, monsieur?
Alors elles regardent, elles jettent un coup d'œil à droite, à gauche, puis enfin au plafond, et elles font « Oh, je crois que je me suis trompé de magasin. »
C'est joli, ça, c'est bien dit.
Ah, mais j'aime bien.
T'aimes bien et tout. Alors, dans ton propos, cette transformation Strasbourg, toi qui étais étudiant et qui t'a donné, c'est la ville de Strasbourg qui t'a donné envie de voyager. Oui ou non?
Oui, tu sais que j'étais étudiant au FEC, et étudiant au FEC, on a eu un melting pot de gens très intéressants. On a fait des rencontres étudiantes. Il y avait un côté pluriethnique et puis des gens qui nous racontaient comment c'était chez eux. On peut dire qu'à Strasbourg, plus qu'à Colmar, qui est ma ville d'origine, hein, ma ville natale, on avait cette rencontre.
Ce brassage
merveilleux grâce aux étudiants qui est sans cesse renouvelé. Hein.
Alors, tu aimes cette ville et, en fin de compte, tu es parti en Mongolie pour enseigner le français.
Oui, alors plutôt en Mandchourie.
Mandchourie.
Qui est plutôt la Sibérie orientale. C'était vraiment le hasard. C'est aussi une rencontre que grâce à une femme que j'ai rencontrée à Strasbourg au foyer d'étudiants catholiques. Donc le fameux FEC dont je parlais tout à l'heure, hein, que ça montre bien le brassage. Une partie qui ressemble beaucoup à l'Alsace. Hein. Froid, très froid en hiver, très chaud en été. On retrouve le même climat, la même ambiance que les Vosges. Et aussi, quelque part, un peu comme en Lorraine, des mines de charbon, des aciéries, du fer, et puis un très beau paysage.
Alors, on confond toujours la Mandchourie avec la Mongolie, c'est complètement différent. Et la Mandchourie, il y avait des guerriers terribles qui s'appelaient les Mandchous.
Oui, tout à fait, oui.
C'était des guerriers terribles, les Mandchous.
Oui, tout à fait. Alors, ils ont beaucoup appris des Mongols, qu'ils ont réussi à surpasser. Une armée très dure, qui ressemble un petit peu aux janissaires turcs, très bien organisée, et qui ont réussi à soumettre la Mongolie, puis à soumettre la Chine. Et toute la Chine est devenue l'empire des Tsin, l'empire des Mandchous.
Des Mandchous, c'est comme ça. Eh bien, nous allons des Mandchous passer une très belle musique. Alors, je t'ai inversé tes titres et tu vas aimer.
Aragon, la fiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du gilet.
Pourquoi cette chanson, Eric, qui est d'une tristesse terrible, avec des mots forts?
Oui, ça fait, mais c'est un peu l'histoire de ma famille. Donc une histoire avec le grand-père hein, qui a subi, qui a vécu la guerre.
L'Espagne.
Oui, l'Espagne, puis la France. la France qui l'a livré aux Allemands, les Allemands qui l'ont interné, Mauthausen. Donc une histoire terrible. Il s'en est reçu, mais on sait qu'il aurait pu être sur la fiche rouge.
Alors, je sais que tu es un homme de lettres et de textes. Alors, comment le français est perçu en Mandchourie ?
Alors, moi, la Mandchourie que je connais, c'est la Chine maintenant. Et par conséquent, le français, nous sommes le pays de l'amour, le pays de la joie. Nous sommes un pays extraordinaire où on peut, pour les Chinois, ce qui est important, gagner de l'argent, échapper aussi à la pression terrible qu'il peut avoir en Chine, et puis ce plaisir aussi, comme tous les jeunes, de voyager, de se parfaire, de devenir meilleur, de faire des études. La France est très bien perçue.
Alors, est-ce que tu as l'image de ton arrivée ? Tu es arrivé en avion dans quel aéroport, Mandchourie ?
Alors, je suis arrivé... Alors, c'est extraordinaire. Extraordinaire, parce que tu arrives en Chine, tu dis enfin, ça y est, mon vieux Luinou, nous y sommes. L'aéroport est super moderne. Et puis finalement, on va retrouver un pays où on a accueilli par des mitrailleuses, par des gens armés mitraillettes, donc ça fait un peu peur. Et puis très rapidement, je me retrouve dans un vieux bus. Et là, on se demande où est la police, parce que le pays semble complètement chaotique. Et après des heures de bus interminables, on arrive dans une petite ville au petit matin, dans les brumes, dans un froid terrible, et on est suivi par des nuées de taxis qui savent que forcément, de ce bus venant de l'aéroport, eh ben vont descendre des gens riches qui vont repartir en taxi. Et on est escorté comme un gros requin par des poissons pilotes, par des dizaines de taxis qui vont se suivre, se doubler, se faire des queues de poissons. Et on se demande dans quelle sauce on va être mangé. Donc ça, c'est magnifique.
Alors, tu sors du bus, tu montes dans un taxi.
Et j'arrive devant un immeuble accueilli par ma belle-mère. Un immeuble, on ne sait pas s'il est...
C'est déjà ta belle-mère ?
Oui, on peut dire ça. Alors, on ne sait pas si l'immeuble est en construction, s'il est en démolition. On ne sait pas. Ça date de l'époque soviétique, de l'époque communiste. Hein, c'est pas possible. Rien n'est terminé. Oh, c'est extraordinaire. On est tellement fatigué qu'on est heureux. Il y a une odeur aussi de chou fermenté, parce qu'il faut encore le chou fermenté, un peu comme le chou, c'est aucun inventé la choucroute. Et on arrive avec des gens qui sont hyper contents de vous revoir, de prendre les affaires, etc. Qu'ils ont préparé un petit bouillon. Et puis, on commence comme ça, comme un des premiers matins du monde.
Comme les premiers matins du monde. Et alors, ta première classe ?
Alors, c'était extraordinaire parce que j'ai appris avec des professeurs, à amuser la classe, à distraire, à faire répéter les phrases françaises jusqu'à que les personnes puissent les apprendre, les corriger, en les distrayant, en les encourageant. Et alors que j'étais assez docte, assez pénible, assez pointilleux, je me suis rendu compte qu'en fait, il valait mieux plutôt les amuser, les reprendre en douceur, les corriger, les entraîner, de manière qu'ils parfaitent leur prononciation, qu'ils oublient leurs erreurs.
Alors, est-ce que ce sont des élèves studieux ou ce sont des chahuteurs ?
Ils sont incroyablement studieux. C'est un vrai plaisir parce qu'on a vraiment des gens qui ont le plaisir d'apprendre, qui ont le plaisir de se parfaire. Et j'ai même donné des cours gratuitement à la fac. On a ce plaisir de communiquer, de partager.
Et tu es considéré comme prof quand tu es là-bas ? Tu es un maître comme dans les temps, les instituteurs sous la Troisième République en France ? Tu es monsieur l'instituteur ?
On est plutôt le représentant, le français.
Le français
tel que les gens s'imaginent ou s'imaginent pas. Et c'est cette image de français quand on est ambassadeur de toute la France, alors qu'on n'est pas grand-chose en fin de compte, que les étudiants vont avoir en face de soi. Et aussi, c'est intéressant, les professeurs.
Qui sont curieux de toi.
Oui, ils sont curieux et puis ils vont demander, par exemple, des choses particulières. Ils savent, ils ont décelé, par exemple, des erreurs dans leur livre de français. Et ils se demandent si c'est une erreur de texte, une erreur de frappe, ou si c'est eux qui se trompent depuis 40 ans.
Ah, c'est surprenant.
Ouais, c'est surprenant. Et on dit non, 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 vous avez raison, c'est le livre qui se trompe.
Le livre se trompe. Alors, tu as un statut un peu particulier et ta vie est dans une ville. Comment est la ville ? Elle est belle, elle n'est pas belle, elle est moderne, elle est comment ? C'est triste, c'est comment ces villes ? Dans ta ville qui s'appelait ?
Chaillan.
Chaillan.
C'est la capitale de la Mandchourie. Ça a été une ville importante, une ville du Nord. C'est une ville qui a été entièrement détruite et reconstruite par des gens qui savaient que de toute façon, on allait reconstruire les bâtiments dans 30, 40 ans ou dans 20 ans. Donc, c'est pas trop la peine de parfaire les choses.
Détruit par des séismes ou par des guerres ?
Non, détruit par la reconstruction permanente. La Chine a été bouleversée. On essaye de faire moderne. Et puis, les nouveaux bâtiments sont très beaux. Il faut reconnaître ça aux Chinois. Les nouveaux bâtiments se veulent être modernes. Et certains bâtiments sont effectivement assez magnifiques.
C'est une ville de combien d'habitants ?
Il y avait 7 millions d'habitants.
7 millions, ça parle de...
Je me rappelle, des Français avec qui j'ai communiqué me disaient « Il y a 3 ans, la route qui menait à l'aéroport, c'était une route en terre battue. Maintenant, ils ont fait une 2 voies, une 4 voies. » Et puis, les gens qui étaient là 5-6 ans avant moi me racontaient que la ville avait complètement transformé, que c'était devenu une capitale, alors qu'avant, c'était une bourgade où la plupart des rues étaient des rues en terre.
Alors, tu égrenais tes journées entre les cours et rentrais chez toi, dans ta famille, parce que tu étais avec ton épouse déjà.
Absolument.
Voilà. Et comment est venue l'idée du commerce ?
Alors, c'est elle qui voulait absolument faire un commerce. Alors, comme moi, je ne voulais pas. Bien sûr, on a fait un commerce, naturellement. Et puis, elle voulait vendre plein de choses un peu pénibles. Et elle m'a présenté un copain commerçant, tibétain, qui lui vendait des objets religieux devant les temples. Et là, je me suis dit, tiens, ces objets bouddhistes, ces objets ont du sens. Ça, je me verrais bien. Et puis, c'était beau, c'était joli. Il y avait des vraies matières, il y avait quelque chose de différent, du vrai papier népalais, du papier en toile de riz, il y avait de l'os, il y avait des choses qui étaient bien faites. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, ça, oui, je veux bien le vendre. Elle s'occupera du commerce, moi, je ferai autre chose. Mais oui, ça, c'est intéressant.
Et c'est comme ça que vous avez démarré en rentrant. Tu as pris la décision de rentrer et d'ouvrir un premier magasin ?
Absolument.
Tu ne voulais pas rester là-bas ?
Alors non, d'abord, on n'a pas pris la décision d'ouvrir un magasin. Je m'opposais catégoriquement au commerce. On a commencé à vendre sur les marchés. Et je voulais lui refiler le bébé du marché. Et puis moi, faire des choses comme le professeur, des choses plus intéressantes.
Mais les marchés en France, pas là-bas.
Absolument. Donc je déballais sur les marchés, au milieu des trucs de légumes, etc., etc. C'était assez folklorique, j'aimais beaucoup ça.
En France.
Place de Zurich.
Place de Zurich.
Il y a eu un petit succès, et finalement elle a voulu ouvrir un magasin. Donc je me suis complètement opposé à l'ouverture d'un magasin qui me semblait une aberration. Et donc 2 mois plus tard, on a ouvert un premier magasin.
Bon, sur ce, là t'as une vraie surprise musicale.
Aïe.
On n'a pas trouvé ton titre, mais on a trouvé un titre rapprochant.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes d'effroi. Emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Le voilà, le voilà.
Sur les barricades, par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier.
Le voilà, le voilà.
Tu vois, on a trouvé une chanson pour le rouge
de
la Chine, le peuple ouvrier. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment un peuple ouvrier où le communisme est omniprésent ?
Alors, Shenyan est une grande ville ouvrière. Je me rappelle d'un endroit extraordinaire qui était tenu par des ouvriers, enfin, vraiment par le petit peuple. C'est un endroit extrêmement fumé. Tu avais l'impression d'un endroit où tu allais te faire tuer à coups de couteau. Les tables étaient... Quand tu marchais...
Ça collait
et tu écrasais des os de poulet. Tu étais reçu par une dame qui te regardait. Oh, mais s'il y a de la place. Tu savais très bien qu'il n'y a pas de place. Elle t'en trouvait. Et tu ne pou- tu, avec tes fesses, tu bougeais le dos des gens. C'était incroyable. Il n'y avait pas de place pour la serveuse, elle ne pouvait pas passer. Et elle demandait aux gens de te passer les bières, de te passer les plats. Et le seul plat, c'était un fricassé de poulet. Mais attention, un fricassé d'os de poulet. Il n'y avait plus de chair. C'était quelque chose qu'on faisait frire très vite dans une espèce de grosse marmite avec un feu incroyable. Les os de poulet devenaient croustillants comme des frites. Et tu ne mangeais que ça avec de la bière, avec les doigts. Et ensuite, tu jetais tout ça par terre. C'était merveilleux.
Oui.
C'était merveilleux. Tu n'avais pas de dossier. Il n'y avait pas de place pour avoir de dossier, de chaise à dossier. Ton dossier, c'était le dos du gars qui était derrière, que tu ne connaissais pas. Et quand les gens se levaient, ils t'écrasaient et il fallait que tu te plies, sur la table où tu avais le poitrail qui pratiquement touchait la table qui était collante. La bonne femme, elle venait, elle débarrassait tout ça avec la manchette, avec l'avant-bras. Elle mettait ça dans son grand
tablier.
Dans son tablier. Elle jetait négligemment le reste par terre et hop, c'était parti.
Alors, est-ce que tu mangeais bien en Chine ?
Oui, on mange bien.
Tu manges bien ?
On mange bien. On mange bien. Non, alors la nourriture du Nord est une nourriture qui va ressembler un petit peu à la nourriture allemande. Ça tient le corps, c'est fait pour réchauffer, c'est très gras. Ça peut être... Il y a beaucoup, effectivement. Les Chinois disent la nourriture du Nord, ça ressemble un peu... C'est très particulier, c'est fait pour tenir au corps.
Tenir au corps.
Ça me convient très bien.
Alors, la mentalité des Mandchous, elle est quoi la mentalité des Mandchous ? Parce que c'est la grande dynastie, en fin de compte.
Alors, elle a disparu. Hein. En fait, les Mandchous se sont sinisés.
Ouais.
Les peuples du Nord, Dongbei, Zhen, ils sont très fiers du fait des gens plutôt droits, vertueux, dignes, qui travaillent, à la différence des gens du Sud, qui sont un peu plus arrangeants, pas fourbes, un peu arrangeants, un peu comme ça, diplomates, etc. Malheureusement, la misère, un peu comme la misère, la fin des grands chantiers, la fin des grandes sidérurgies, s'est abattue sur le pays et fait que la pauvreté a fait que beaucoup de ces Chinois ont été obligés, par la misère, d'avoir des recours à des expédients. Et parfois, ils ont une mauvaise réputation en Chine.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'appelle les expédients ? Des bandits, du trafic ?
Des petits trafics, des choses comme ça, faire des choses qui ne sont pas forcément très convenables, de ne pas tenir leurs paroles, etc. Alors qu'en fait, c'était vraiment leur caractéristique première.
C'était des grands guerriers, les Mandchous.
Absolument.
Qui ont eu une renommée extraordinaire.
Oui, ils ont réussi à conquérir la Mongolie. Et par mesure de rétorsion, ils ont obligé dans chaque guerre, dans chaque yourte mongole, à que les femmes détruisent les petits aigles qu'il y avait sur leur chaudron. Et c'était terrible, parce que c'était la fierté de voir cet emblème d'aigle bleu des steppes sur les chaudrons. Les Mandchous les ont détruits. Et par vengeance, les femmes mongoles ont fait des coiffures démesurées en forme d'aigle Garuda.
La fameuse coiffure qu'on voit, qui monte noire, comme ça, qui est montée.
Absolument, qui va comme une grande vague. Et qui disait, un jour, notre aigle va détruire votre corbeau, qui était l'emblème des Mandchous. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs.
Et comment s'appelle cette coiffure ?
La coiffe Garuda.
Coiffe Garuda.
Et donc ça, c'était M. Doulan, un de mes professeurs d'ethnologie, venant spécialiste, un grand spécialiste de la Mongolie et du chamanisme, qui nous a raconté cette histoire, en espérant qu'elle soit vraie.
Alors, le chamanisme des plaines, parce que c'était une région qui avait beaucoup de forêts.
Oui.
Est-ce que c'est toujours présent, ce chamanisme ?
Non. Non, non, le chamanisme partout est en recul. Il y a déjà eu, premièrement, la sinisation, du fait qu'ils sont devenus de plus en plus chinois. Et puis, le bouddhisme tibétain est une religion beaucoup plus organisée, qui peut produire beaucoup plus de moines, qui s'appuient sur des textes, alors que le chamanisme, c'est un homme qui instruit son disciple. Ce qui fait que c'est une tradition qui prend beaucoup plus de temps, qui est d'homme à homme, un seul à un seul. Et un chaman ne peut pas avoir 36 disciples comme peut l'avoir un prêtre bouddhiste.
Écoute, ce propos m'incite à te réinviter, car le sujet du chamanisme, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. C'est déjà l'heure, l'émission se termine, à la prochaine. Et à la semaine prochaine.